deux témoignages d'assauts locales.
Et qui était à l'origine des premiers assauts, Ainu, etc.
Parce que les grands frères que j'avais pas, qui étaient les grands frères de mes amis, jouaient de la batterie, jouaient de la musique, et j'ai toujours été attiré par ça. Et donc après, de fil en aiguille, être mélomane, pratiquer la musique, et puis après, ça a été découvrir le milieu associatif et l'organisation des concerts.
Et tu te rappelles la première fois que tu as entendu le mot punk ou
Le mot punk, je l'ai entendu très très jeune, mais je pense que j'ai mis un sens assez tardivement, plus sur quand j'avais 20 ans, 22 ans.
Et le premier concert que tu as fait, c'était à Montaigu?
Alors le premier concert que j'ai fait, c'était en 89 à Montaigu, avec Marie Gozrand, Asylum Party, deux groupes de New Wave, Cold Wave parisiens des années 80-90. Et donc ça a été la révélation, mais après il y en a eu d'autres. Très très vite, il y a eu beaucoup de concerts, donc j'ai été marqué par beaucoup d'événements. En 91, je suis monté dans la voiture à un festival à Morlaix, où il y avait, ça s'appelait les Tamaris, où j'ai vu les Cramps, j'avais 15 ans et demi. Pete Gervais, j'ai toujours été attiré par les concerts, et donc mélomane, consommateur.
Et alors donc, pour arriver au dur des questions que je voulais te poser, c'est quand est-ce que t'as voulu passer de l'autre côté, que t'as voulu commencer à organiser des choses
À Montaigu, ça se passait très simplement. Hein. C'était, on parlait d'Arsenic, qui est un petit peu l'assaut mère de tout ce joyeux bordel. Très vite, tu trouves ta place dans l'assaut et puis tu participes à l'organisation d'événements. Donc ça se fait très simplement. Et tu prends goût, tu prends pas goût. Et puis après, c'est les rencontres. Et puis après, plus le fait de s'affirmer aussi musicalement, parce qu'Arsenic était quand même une assaut assez généraliste en termes de diffusion. Donc après, quand ça se précise un petit peu, tes envies et tout, soit tu fais des choses avec des gens qui ont plus d'affinité avec toi, ou soit tu essaies de faire les choses par toi-même.
Et alors, t'as commencé par quoi? Est-ce que t'as commencé par faire de la musique, t'occuper de groupe, organiser un concert? T'as commencé par quoi en fait?
Déjà écouter la musique, hein, je l'ai dit. Après, ça a été la pratique musicale. Après, l'organisation. Et puis, très 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 vite, y a eu des rencontres. Beaucoup, beaucoup de rencontres qui m'ont donné envie de compléter tout ça, c'est-à-dire avoir un micro-label, hein, parce que j'ai aucune prétention d'avoir un label, et puis de diffuser des disques et de partir en tournée et tout ça, quoi.
Donc c'est quand d'abord tu as créé une liste de distro ou tu as commencé le label?
C'est plutôt la distro d'abord. Donc la distro, en fait, c'est simple. Moi, je pars du principe que quand tu joues dans un groupe, et que tu veux que des gens organisent ton groupe à le bout de la France, faut être capable de pouvoir organiser chez soi déjà. C'est la base. Après, quand tu sors un disque et que tu as envie qu'il soit distribué, faut aussi distribuer le disque des autres, s'intéresser un peu à ce que font les autres, c'est important. Et après, c'est une sorte de cercle vertueux. Et à partir du moment où tu mets le pied dedans, faut donner quoi.
Ouais, parce que je me rappelle, la première distro que tu as fait, c'était sous le nom de l'assaut Crawed.
Ouais,
c'était
pas.
Ouais. Ouais. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. D'abord, tu as fait, cette distro sous le nom de Crawed.
Donc, Crawed, en fait, était donc une asso qui existait. Et moi, j'ai pris un peu l'asso en cours. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est. Au gré des rencontres, quoi. Donc, je me suis senti bien avec ces gens-là. Donc, il y avait Cédric Degnaud, il y avait Seb Moreau, il y avait les Kraft, tout ça et tout. Et on avait plus d'affinité musicale. Donc, je me suis investi dans l'assaut. Et donc, il y avait déjà une distro, en fait, qui était là, déjà existante. Et donc, voilà, quoi, ça me paraissait évident de.
Je pense que c'était en 2000 ou 2001, ta première distro.
Peut-être plus 98, 99.
98. Ouais. Mais en tout cas, moi, un des trucs qui m'avait frappé les premières fois que je venais à Montaigu, c'est qu'il y avait comme des mini-hits. C'est-à-dire, il y avait des disques dont personne n'entend parler, mais en gros, tout le monde à Montaigu achetait le vinyle parce que Steph avait dit ça, c'est le futur. Je me rappelle à un moment. En 2001, il y avait un album de Envy, et puis voilà, on allait chez tout le monde avait cet album de Envy, c'était avant qu'ils explosent, parce qu'il avait dit, non mais ça, faut écouter ça.
De façon très autoritaire.
Du coup, avec sa distro, il faisait des mini top 50, mais limité à Montaigu, mais t'aimerais pas le terme, mais...
J'aime pas trop ça.
Donc genre gros leader d'opinion.
D'accord.
Du coup, j'ai listé là. Donc, je vais d'abord un peu parler du label. J'ai listé là tous les trucs que tu as sortis. Enfin, ça, c'est la liste des. Donc, il y a eu 37 sorties en fait sur ton catalogue. Alors, dis-nous comment, à un moment, donc, comme tu t'es affirmé dans tes goûts, tu as décidé donc de créer cette nouvelle asso Ainu.
Bah, j'étais pas tout seul, hein, c'est avec d'autres copains. Donc, je pense aussi que c'était la fin de Krawed. Je pense que Krawed avait une image, un nom qui n'était pas forcément très, très, très attendu dans la mairie, par la mairie. Bref, donc c'était le moment de changer aussi, et puis peut-être quelque chose de nouveau qui soit peut-être un peu plus. Qui dénote un peu aussi de tout se passer. Bref. Donc bah, l'idée du label, c'était de sortir des disques de copains qui sont en plus géographiquement dans le coin, hein, ce qui est la base d'un label au début, c'est un peu ça. Et puis donc il y a tous les groupes locaux, hein, comme Kraft, Dioz, HHM, bon, qui sont de Brest, mais ça reste local quand même. Et puis après, bah,
Loud Society Curse.
Merci. Donc, et puis après, bah, après ça se diversifie un petit peu, mais c'est toujours les copains, toujours les rencontres. Alors après, ça va un petit peu plus loin, ça va jusqu'à Metz, Caen. Voilà.
Ouais, voilà. Alors moi, ce que je trouve assez troublant, enfin, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, tu montes ta distro. Et donc, tu commences à sortir des disques. Et donc, du coup, tu commences à construire des réseaux à la fois régionaux et puis nationaux et là, internationaux. Parce qu'il y a dans l'histoire de la scène de Montaigu, il y a à un moment une date, c'était ce fameux concert à l'ancienne gare.
À la gare, ouais.
Où il y avait donc un groupe brésilien, Ratos de Porraos. Il y avait Hippies of Today de Caen.
Il y avait Kraft de Montaigu, ouais, et Nostromo de.
Et alors, du coup, comment. Enfin, je veux dire, le commun des mortels peut se dire, bah, comment un groupe brésilien arrive comme ça à l'ancienne gare de Montaigu comment...
Comme tout le monde, par l'avion. Et, Non, mais enfin, moi, je vois pas quelque chose d'exceptionnel en soi.
Hein, mais genre, ils ont dit, ah tiens, on va téléphoner à Steph à Montaigu.
Bah après, c'est comme d'habitude, t'as un réseau avec un tourneur ou quelqu'un qui fait le lien et tout. Et donc, cette fois-ci, c'était Vincent de Massprod qui, en fait, faisait tourner Ratos.
Donc,
Massprod à Rennes. Mass Production à Rennes. Et donc, voilà, il nous a proposé le concert. On a tout de suite dit oui. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, même si ça a été quand même un peu spécial, quoi. Un concert un peu hors la loi. Un mercredi 1er novembre à l'apéro, quoi. Avec 400 punks qui débarquent à l'halle de la gare.
Ouais.
Un lieu où, en fait, c'est un peu. Enfin, c'est insolite, quoi. Il n'y a pas de concert normalement, quoi.
Ouais, et puis tout ça avec un budget de, je sais pas, qui chiffre en centaines de francs.
Ah oui, ouais, parce que de toute façon, le groupe brésilien, c'était 2000 francs, quoi. 300 euros. Alors que déjà, ils étaient déjà super connus, quoi.
Voilà,
bah bon, voilà, c'était pas une histoire de budget, fallait le faire, on l'a fait, et on a
ouais, mais voilà, donc ça veut dire, bon, bah, t'es vraiment dans l'action, ce qui est vraiment punk, on pourrait dire d'une certaine manière, mais c'est-à-dire que du coup, eux et vous êtes d'accord, vous êtes en phase sur la manière dont ça doit fonctionner, le groupe arrive, vous leur faites une bonne bouffe, vous les accueillez chez les gens, mais voilà, ça se limite un peu à ça au niveau du budget.
Bah ouais, c'est la base, non?
Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai juste scanné quelques pochettes du catalogue de Ainu, mais donc là, Michel Platinum, qui est un groupe plutôt de Valette donc,
ouais.
Juste au sud du département de la Loire-Atlantique, pas loin de Clisson. D'ailleurs, dont le batteur, après, a joué avec un groupe de Montaigu.
Qui joue dans plein de groupes.
Ouais. Mais ce qui est assez intéressant, là, je pense, au niveau des réseaux et de la manière dont fonctionne le DIY, c'est que, vous voyez, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, c'est un split, il y avait co-produit par 12 labels.
Donc, c'est souvent le cas.
Ouais.
Souvent beaucoup de coproduction et beaucoup de labels.
Donc là, tu peux juste nous décrire comment ça fonctionne, par exemple, la production d'un disque comme ça avec 12 labels.
Ouais, généralement, c'est le groupe qui fait la démarche, quoi, hein. Il contacte tous ses potes et puis chacun met à la hauteur de ce qu'il peut dans le disque. Il n'y a pas de répartition au pourcentage, enfin pourcentage, je veux dire, mais c'est si t'as 50 balles, tu mets 50 balles, puis t'auras 15-45 et puis voilà, quoi.
Voilà, donc les labels mettent, enfin font chacun une mise. Et ils récupèrent en fait un certain nombre de disques au prorata. Et du coup, chacun le met, par exemple, dans sa distro locale. Et quand on va au concert, du coup, on a un catalogue de distro avec comme ça. Et j'imagine que là, dans les 12 labels, il y en a qui sont issus de plein d'endroits de la France, ah bah ouais. Et, voire même de l'étranger.
Ouais, c'est ça. Donc c'est assez varié, ouais.
Donc là, j'ai mis le Kraft, qui est un des groupes locaux, avec un titre toujours subtil, dites-le avec une pelle. Donc là, c'est il y a cinq labels en split. Et j'avais mis celui-là aussi, la Morgue Pleine. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si. Donc tu me disais que. Donc il y a quand même structurellement dans tes collaborations. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en a déjà parlé, mais. En termes d'économie alternative, c'est plutôt du don contre don que justement des échanges c'est pas une logique capitaliste, mais c'est plutôt une logique d'économie non monétaire de don contre don. Et c'est ce qui fait vivre en fait la scène au niveau international.
Je pense qu'il faut quand même redire quelque chose.
Vas-y, mais
une valeur ce que tu veux. Punk, c'est d'acheter des disques et de soutenir la scène. Je veux dire, une des valeurs du punk, c'est d'acheter des disques. Le punk n'est pas là pour procréer ou pour se droguer à la base, il est là pour acheter des disques.
Et donc, ce que je voulais simplement te faire dire, c'est que dans ces labels-là, dans ces villes, il y a quand même eu des labels très structurants ou des collaborateurs assez structurants. Et je pense que, notamment, la scène de Caen.
La scène de Caen, pour faire un tour de France. Hein. Enfin, là, il y a quand même énormément de connexions dans toute la France. Donc après quand il y a eu une connexion parce que j'ai eu des affinités musicales, beaucoup une scène assez active aussi pendant un moment qui m'intéressait moi, donc un pont. Mais après on pourrait parler de Paris, on pourrait parler d'autres villes aussi, hein, comme à Paris avec le squat du 13, qui a été une grosse connexion avec Montaigu à un moment.
Voilà, tu me disais que le squat du 13 à Paris, t'as connu du monde là-bas.
Il y a déjà des gens de Montaigu qui sont allés vivre à Paris, souvent en formation, et qui traînaient beaucoup là-bas. Donc, et c'est des gens qu'on retrouve après à Bordeaux, à Rennes, aujourd'hui, avec qui on fait encore des choses.
Et du coup, ça, cette construction d'un réseau, ça a servi aussi pour faire tourner des groupes. Parce que du coup, il y a des groupes de Montaigu qui sont allés tourner en Pologne ou... Donc là, c'est pareil, en fait. Est-ce que c'est des collaborations qui naissent du fait que tu fasses jouer des groupes à Montaigu ou alors que tu coproduises des disques
Tout est lié, en fait. Hein. Et puis après, il n'y a pas de... Après, s'il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas d'affinité. C'est parce que tu sors des disques et puis que... Enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait des atomes crochus et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un travail sur le long terme, tout ça. Et comme tu dis, c'est un vrai réseau, quoi, où les gens s'entraident et sont encore là, quoi. C'est surtout ça. 15 ans après ou 20 ans après, ils sont encore là et toujours actifs dans le même délire, quoi.
Et alors l'autre chose que je voudrais dire, c'est que après, disons, notamment avec l'implantation du Zinor, déjà avant, tu organisais des concerts au foyer des jeunes, dans les bars de Montaigu.
Au repère de Bon-Vivant, au Mille, ouais. Saint-Laroche. Oui. Même on a fait des trucs à Bressuire. En fait, il n'y a pas de salle... type, quoi. C'est ça qu'il faut voir aussi.
Et par contre, où tu as eu un rôle fondateur sur le Zinor, c'est que du coup, comme tu avais des gros réseaux, tu as commencé à organiser des concerts régulièrement au Zinor, et notamment, tu as monté un festival qui s'appelle le
Aim Fest. J'aime bien quand tu parles de ça, je suis surtout pas tout seul déjà à la base.
Donc là, c'est ONU. Donc là, j'ai mis quelques. Enfin, c'est des données qui sont prises pour la plupart des photos, qui sont prises dans la base de données Alternarchive. Hein. Et donc, plusieurs affiches des festivals que tu as fait. Alors, si tu peux nous dire comment tu as commencé à monter ça.
Alors, pourquoi le festival? Déjà, un festival, ça a son sens quand tu fais une programmation à l'année. Et, le festival, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, de la petite récompense. Tu te fais plaisir en fait. Toute l'année, tu fais 2, 3 groupes, 4 groupes par jour. Tu pousses un peu le bouchon et puis t'en fais 10 ou 15 par jour. Et il y a un côté fédérateur, tout ça. Mais parce qu'il y a eu un travail à l'année. C'est ça qui est important. En tout cas, on est 3 à organiser le festival. Pour nous, c'était vraiment important. Donc après, on est des personnes qui ont beaucoup bougé, qui ont beaucoup vu par nous-mêmes d'autres festoches. Et là, en fait, on a réussi à concevoir, à conceptualiser en fait le truc qui nous collait le plus à la peau, quoi, qui nous représentait le plus. Et donc on a fait ça ici parce que on a quand même un bel espace de liberté ici, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc c'est une programmation où il y a 21 groupes tous les ans au mois de septembre. Et donc et les groupes, on les cherche, où ils sont devant nous. Voilà quoi, c'est notre programmation, c'est notre bébé quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu la chance qu'on a, c'est de faire un truc qui nous représente bien en fait.
Et donc du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire sur Montaigu ? Quel sens ça a pour toi d'être à Montaigu par rapport à être dans une autre ville ou est-ce que quand tu... Enfin voilà, comment tu vis ta situation de Montécutin ?
Tu vois, j'ai 42 ans, je suis encore là. J'ai été vivre 5 ans à Nantes, ce qui était... Enfin, c'était vraiment bien. J'ai fait plein de concerts là-bas et tout, mais je suis revenu à Montaigu. Donc, après, c'est compliqué parce que je vois, en termes d'organisation de concerts, le public, il faut aller le chercher. C'est très, très compliqué. Mais je trouve ça quand même plus intéressant de faire des choses ici qu'à Nantes où il y a une multitude de choses. Et donc voilà, donc c'est un peu maso de faire des trucs ici, j'ai l'impression, mais ça vaut vraiment le coup de dynamiser le milieu rural. Voilà.
Et qu'est-ce que les gens te disent de Montaigu ? T'as des anecdotes là-dessus ? Ils
non.
disent « Ah, c'est où ?»
Je parle pas de Montaigu. Je parle très peu de Montaigu. Bah non, il n'y a que toi. C'est toi le représentant. C'est toi le président de Montaigu.
Et comment tu te vois, enfin comment Einu se sent ou se positionne par rapport au collectif associatif est-ce qu'elle se sent différent, complémentaire?
Complémentaire, ouais. Complémentaire. Je trouve que c'est un bon compromis le collectif entre ce truc institutionnel et un peu alternatif. C'est un bon compromis et donc Einu a tout à fait sa place, je trouve, et on se sent bien, quoi, vraiment.
Voilà. Non, mais il fait un peu son timide.
C'est
un gros charismatique, mais bon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la... Donc là, on a eu un éclairage sur une asso. On pourrait dire, ça, c'était ce que j'essayais de défendre dans la thèse sur la dynamique de la scène de Montaigu entre éducation populaire et punk, parce que du coup, là, c'était, on avait quand même un pendant... assez punk, mais du coup qui profitait de cette structuration d'autres associations, mais qui en même temps permettait de tirer un peu le bébé en termes d'activité, parce que il a pas l'air comme ça, mais en fait, donc voilà, il est vraiment suractif comme mec. Et donc finalement, avant de peut-être de vous poser, de vous donner la parole pour quelques questions ou échanges, je voudrais faire un peu peut-être discussion, mais du coup avec une autre asso qui est l'association Kérosène, donc représentée par Dan ici présent. Et alors Dan, lui, il habite plus à Montaigu, donc il est revenu spécialement justement grâce au fond du programme de recherche PIND. Alors, je sais pas comment... moi, je n'ai pas l'habitude de... C'est ça, arrêter ou lancer le programme. Comment je peux faire, là? Je voudrais juste virer ça. Je voudrais que ce soit juste sur le grand... Est-ce que quelqu'un qui connaît Mac peut me mettre le...
C'est un PC, mais je fais ça.
C'est son côté punk, ça.
Je veux juste... Là, ah ouais, c'est là. Ok, merci. Hop. Bah non.
Tu veux pas le diaporama ?
Bah, ah oui, ok. Ouais, pardon, excusez-moi. Je n'avais pas vu. Voilà, hop. Donc, en fait, l'histoire de Kérosène, qui est en fait une des assos aussi fondatrice du collectif, pas à l'époque des 3, mais à l'époque des 8, quand l'asso a été déposée, au début des années 2000. Et c'est Dan, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il avait déjà un gros background et pas mal de réseaux, mais à l'époque, il était plutôt dans l'est de la France. Et à un moment, il s'est retrouvé à Montaigu. Et quand il a baigné un peu dans la dynamique, il s'est dit « Pourquoi pas relancer mon fanzine ?» Enfin, si on peut résumer comme ça, c'était un papier, quand il voulait, avec un autre type de Montaigu qui est dans la salle, qui s'appelle Richard, avec qui il a relancé ce zine. Donc finalement, ce zine, il a été quand même... il a duré pas mal de temps. Il y a eu pas mal de numéros. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le profil de Dan, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi à Montaigu, mais qui est arrivé à Montaigu, qui a un peu... Qui s'est un peu intégré dans l'ambiance et du coup qui a voulu participer en fait à cette dynamique globale. Donc pareil, moi je voudrais d'abord te demander Dan, comment t'as connu la ZIC et comment quand est-ce que c'était la première fois que t'as entendu parler du punk. Alors je tiens à dire que il y a beaucoup de polémiques, mais on y reviendra peut-être. C'est que en fin de compte Dan, il a une ligne directrice plutôt dans son fanzine. Qu'on appelle le Dancore. Enfin, c'est un truc. C'est à Montaigu, on parlait de Dancore. Et donc, du coup, maintenant, en France, on parle de Dancore. C'est les goûts de Dan. Et les mauvaises langues disent c'est du punk à roulette. En fait, c'est un fan de punk à roulette. C'est ce qu'ils disent. Mais bon, si tu peux nous dire comment tu as connu la musique et comment t'en es. Quand est-ce que c'est le premier concert où tu es allé ou la première fois que tu as entendu parler du punk?
Okay. Alors, je viens d'une petite ville dans l'est de la France qui n'était pas très exposée à la musique. Donc, il m'a fallu un certain temps pour aller voir des concerts. Le seul lien que j'avais, c'était les magazines nationaux et un disquaire qui avait uniquement des vinyles de métal, trash, qu'il allait chercher en Allemagne. Et puis, que c'était pas très varié. Donc, mes premiers émois musicaux, ça a été le hard rock, le heavy metal. Quand j'ai entendu parler de punk, ça ne m'a pas tout de suite parlé, le côté look débraillé, les épingles à nourrice, les crêtes. C'est pas un truc qui m'a parlé tout de suite. Et donc c'est venu un peu plus tard. Il y a eu la vague grunge qui est arrivée au début des années 90. Et notamment un label qui s'appelle Sub Pop, qui sortait tous les bons groupes, Soundgarden, etc. Donc je me suis intéressé à ce label-là. Et sur ce label, il y avait un groupe qui s'appelait Super Suckers, qui a été la révélation musicale liée au punk rock, si tu veux. Ensuite, le côté punk, associatif, la relation avec les gens, la façon de fonctionner, le DIY, c'est venu plus avec un groupe qui s'appelle Burning Heads, qui a été un peu la révélation pour moi d'Orléans, oui. Que j'ai vu d'ailleurs, Solveig en parlait tout à l'heure, la première fois que je les ai vus, c'était chez Narcisse, au Val d'Ajol, qui est aussi un cas particulier du punk rock en France. Et donc je voulais être journaliste musical au départ, c'était ça mon idée, sans avoir envie ni d'aller à Paris où tout se passait à ce niveau-là, ni envie de faire d'école de journalisme pour accéder à ça. Et j'ai découvert en étant étudiant à Nancy les fanzines, notamment un qui s'appelait Le Nouvel Os, ensuite un autre qui s'appelait Hyacinthe, qui était de Nancy, justement. Et j'ai vu un fanzine qui s'appelait L'Indique, qui était devenu magazine national quelque temps. Et c'est l'idée que j'avais envie de suivre. Donc avec des copains, on a monté un fanzine avec l'idée de parler de groupes que peu de gens connaissaient et de faire quelque chose qui se présentait bien, qui n'était pas le fanzine photocopié de base. Bien que j'ai du respect pour ce genre de fanzine, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire un truc qui progresse et qui devienne de plus en plus professionnel. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas forcément non plus d'être dépendant des labels qui prenaient des pubs, mais qui en échange demandaient des interviews, puis une certaine condescendance par rapport à leurs artistes. Donc j'ai plus suivi le chemin de développer d'autres activités, donc organiser des concerts, sortir des disques, faire une liste de distro comme Steph.
Oui, en fait, tu as commencé par le fanzine, mais en même temps, tu as commencé à produire un disque et à organiser des concerts.
J'ai fait coïncider mes activités avec mes études. Donc, la première compile que j'ai sortie, c'était mon projet de maîtrise, qui a très bien fonctionné parce que par rapport à d'autres qui faisaient des stages dans des entreprises un peu bidons, j'avais un projet où il y avait plusieurs aspects pris en compte, donc ça a bien fonctionné. J'ai réussi à tirer un salaire au début, à mi-temps, aidé par l'État, mais comme je ne suis pas très bon gestionnaire, ça a fini par mal se passer. Il y a eu un effet d'enchaînement où ça devenait trop gros, et arrivé en 2000-2001, il y a eu un espèce de trop-plein qui fait que j'ai eu l'occasion de partir, et puis je suis tombé un peu par hasard à Montaigu, ça ne devait pas être pour... une longue période, et puis finalement je me suis bien senti, j'ai été adopté par des personnes comme Steph, j'ai senti tout de suite un truc différent de ce que j'avais vécu. Alors je sais pas si c'était le côté côte est, côte ouest, si c'était grande ville, petite ville, Mais il y avait un truc complètement différent qui se passait à Montaigu. Bah, j'avais été un peu briefé. Puis j'ai entendu parler des événements fondateurs, les Lunanthropes, le concert de Ratos de Porao. J'ai bien senti que c'était un truc qui avait fédéré les énergies ici. Et puis,
ça, c'est la BD de Dan qui arrive à Montaigu. D'ailleurs, l'auteur de la BD dans la salle aussi. Mais... Donc... Donc, tu es arrivé en 2001 ou 2002,
2001,
c'est ça ?
2001, oui.
2001. Et tu as décidé de relancer, c'est ce qu'on appelle, parce qu'on dit souvent, historiquement, il y a deux périodes à Kérosène. Donc, il y a la première qui est à Nancy. C'est celle, les pochettes, enfin, les couvertures en haut, là, c'est la première période. Et puis après, elles sont de la première période. Et puis en bas, c'est la deuxième période. C'est quand tu as relancé le zine. Donc ça, c'était en 2002 que tu as relancé le zine.
Oui, je crois qu'il est sorti en 2003. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu déjà le fait de me sentir bien et de sentir un environnement qui était favorable à une activité comme celle-là. Pas forcément parce que c'était des gens qui étaient intéressés par le même style de musique. D'ailleurs, c'est arrivé sur le Dancore après. Il n'y avait pas une adhésion au style de musique... en particulier, mais par contre, la notion de projet, ça plaisait beaucoup. L'idée d'avoir un fanzine à Montaigu, je sentais que ça faisait plaisir à pas mal de monde. Puis il y a aussi le fait d'être parti, d'avoir accompagné un groupe en tournée en 2002, notamment en Angleterre.
Ah oui, où, sorti un numéro spécial, oui, Second Rate, voilà. De Leeds à Montaigu.
Et donc c'était 3 semaines qui commençaient en Angleterre et qui ont donc fini à Montaigu. Donc il y avait un petit côté symbole qui était sympa. Et puis surtout là-bas, j'ai vu des fanzines gratuits qui étaient diffusés au concert. Les mecs qui s'en occupaient arrivaient au début du concert, ils posaient leur pile de fanzines, puis à la fin il n'y en avait plus. Donc j'ai trouvé que c'était sympa comme moyen de diffusion, c'était uniquement financé par la pub, et il n'y avait pas de soucis à gérer l'argent des dépôts, parce que le problème quand il était payant, c'est qu'il fallait courir après l'argent d'un disquaire à Bordeaux qu'on avait vendu 2, d'un groupe à Saint-Étienne qu'on avait vendu 4 ou 5, et donc il fallait un peu chercher l'argent. Il n'y a pas Internet non plus pour simplifier les choses à cette époque-là. Et donc voilà, il y a eu ces deux facteurs, le contexte local et puis l'idée de le faire gratuit qui était beaucoup plus simple pour la gestion. D'autant plus, ça permettait d'en faire plus.
Ouais, et donc du coup, tu étais à un tirage de combien d'exemplaires sur ta période Montaigu, là ?
3000.
Ouais, 3000 exemplaires qui étaient diffusés chez les disquaires indépendants, dans les concerts.
Ce qui était pratique, c'est comme à Montaigu, il y avait beaucoup de groupes qui passaient, ou pas forcément à Montaigu, mais dans les environs. Il suffisait de choper un groupe qui tournait pas mal, lui laisser un carton, puis lui donner 2-3 adresses. Soit il les diffusait à leur concert, soit voilà, à la peine poste.
Et en plus, à Montaigu, t'as constitué une équipe. Du coup, lié à l'assaut, notamment, tu as trouvé des savoir-faire. Toi-même, tu avais déjà bossé sur les logiciels de mise en page et quelque chose comme ça, mais je crois que tu as constitué une petite équipe avec des gens qui étaient plutôt intéressés soit par la technique, soit des pigistes.
Oui, ça n'a jamais été mon idée de faire le truc tout seul. Et c'est vrai qu'à Montaigu, il y a du monde qui est intéressé pour pas mal de choses. Le graphisme, écrire des articles, faire des photos. Et puis voilà, les planètes se sont bien alignées à ce moment-là. Et puis,
ce qui est assez intéressant, c'est que dans ton réseau, tu as gardé aussi des gens de Montaigu, des gens de Nancy,
oui.
d'autres villes qui écrivaient déjà dans ton zine, parce qu'il y a plein de gens qui sont aujourd'hui des journalistes quand même assez connus, qui ont écrit dans Kérosène, enfin, les gens qui sont à la base de New Noise ou de plein d'autres médias. Ouais. La directrice
Guardès.
Guardès à Bordeaux, donc je ne sais plus comment s'appelle la directrice adjointe de New Noise.
Catherine,
qui a fait ses premiers papiers dans Kérosène. Enfin, y a, du coup, ça a été une école pour pas mal de monde. Et du coup, moi, la troisième question et la dernière que je voulais te poser, justement, c'était un peu comme à Steph, c'est du coup, est-ce que... Parce que Kérosène a eu quand même un rôle important dans la diffusion de l'existence de la scène de Montaigu, et notamment parce qu'il y avait une rubrique dans tous les kérosènes de l'époque, le coin du Mont-à-Cutin, où en gros ça racontait en fait l'activité locale.
Ça me paraissait quand même important qu'il y ait ce lien aussi, qu'il soit diffusé. Parce que j'ai toujours aimé ce foisonnement d'activité à Montaigu. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça assez, assez phénoménal. C'était l'opposé de ce que j'avais à Nancy. Quand j'organisais des concerts à Nancy, c'était, j'étais obligé de courir après les adhérents de ma propre asso pour qu'ils aillent coller des affiches, faire les entrées, même le jour du concert. Alors que j'ai fait un seul concert à Montaigu, il y avait des gens 2-3 jours avant pour préparer le bar, préparer la salle, sans que j'aie besoin de demander. Et c'est complètement différent. Puis même le côté où les gens s'intéressent à l'événement plus que forcément à la musique. À Nancy, si les gens n'aimaient pas complètement le groupe, ils venaient pas au concert, même pas par curiosité. Alors qu'à Montaigu, t'avais des gens qui s'en foutaient complètement du groupe que je pouvais faire jouer, mais qui étaient là quand même. C'était l'événement à faire.
Et ouais, parce que comme tu dis, c'est un peu une conjonction, alignement des planètes, mais ce qui était intéressant, c'était que dans la manière dont on développait, dont on a théorisé la scène de Montaigu, sur le fait qu'il y a à la fois des groupes, des organisateurs de concerts, des gens qui produisent, qui enregistrent, qui des labels, et donc là, du coup, ça donnait le côté média alternatif en plus, parce qu'il y a eu d'autres fanzines à Montaigu, comme La Feuille de Y Croit Quoi, mais finalement, avec Kérosène, ça donnait vraiment une ampleur nationale, et ça donnait aussi un côté média qui était assez, du coup, cohérent avec la dynamique de la scène. Et toi, comment t'as ressenti le début du collectif ? T'étais là sur les paroles, c'était vraiment ce que...
Oui, je me souviens notamment des premières AG où il y avait du monde, on parlait des statuts, de l'organisation, de qui allait être président, combien de vice-présidents, etc. Donc ça ronronnait un peu dans la salle, et puis je me souviens très bien d'un moment où quelqu'un a parlé de l'organisation d'un festival, puis là, d'un coup, c'était open bar, tout le monde parlait, tout le monde voulait faire... proposer des noms, proposer une programmation, voulait faire le bar, voulait faire... Je trouve que ça résumait pas mal l'esprit de Montaigu. Ce côté, dès qu'il y a une manifestation à faire, un festival, ça répond, il y a du monde, ça intéresse du monde. Et puis, quels que soient les goûts musicaux... Parce que je me souviens qu'à Nancy, c'était pas du tout comme ça. Il y avait différentes assos et puis qui se mélangeaient pas beaucoup, alors que les passerelles, elles étaient pas très éloignées l'une de l'autre.
Et maintenant que tu bosses à Genève, alors tu t'entends parfois parler de Montaigu ou tu...
Ouais, parce que par exemple, quand il y a la colonie de vacances qui vient jouer à Genève, il y a Doumé qui les accompagne, donc ça parle un peu de Montaigu. Bon, c'est pas non plus... un point cardinal pour les gens là-bas, mais ils ont entendu parler de Montaigu. Oui.
Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment tous les deux. Ça donne une petite photographie. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Donc, soit les chercheurs de PIN qui viennent. Alors, qu'est-ce que le Dancore ?
Alors, l'idée n'est pas de moi, mais comme je venais avec des styles qui ne parlaient pas... ici à Montaigu, des groupes comme NoFX ou Pennywise, des trucs comme ça, ça parlait pas beaucoup. Ça finit par être catalogué. Ou alors les groupes comme Second Rate, les groupes français qui faisaient un peu ce style-là. Finalement, c'est assez large, mais ça a été résumé en Dancore.
Ouais, genre 7-8 à Poitiers.
7-8, oui.
Ou Flying Donut, peut-être ouais. Aussi. Donc, tu vois, les trucs un peu mélodiques, un peu là où il y avait des gens qui trouvent que c'était un peu trop femmelette, tu vois, ce genre de truc. D'autres questions ? Kérosène a laissé des traces, j'ai même retrouvé une photo. Là, vous voyez, il y a un gars qui a même un tablier Kérosène. Peut-être, est-ce que l'un a une question peut-être sur l'autre ou un truc à rajouter pour parler de l'activité de l'autre ?
On s'est tout dit hier soir.
Ouais, on les retrouvailles ont été tardives.
Ouais, ils ont fait la première mi-temps hier soir.
Non, je suis content de te revoir, Dan, ça fait 5 ans aussi. C'était une bonne excuse.
On s'embrasse maintenant.
Non, mais allez, je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui ont des questions à poser. C'est le moment ou jamais. Hein.
N'ayez pas peur.
Bon, qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Qu'est-ce que je fais ? La même chose qu'il y a 20 ans, j'organise des concerts, je sors des disques. et je vends des groupes. Il n'y a rien qui a bougé en fait.
Et toi, Dan ?
Hein ? Bah, ouais, si, j'ai un métier maintenant. C'est vrai.
Ah ouais ? Tu fais quoi ?
Je suis aide-soignant.
Moi, j'ai gardé le côté graphisme de Kérosène pour en faire mon métier à Genève maintenant.
Et pourquoi on peut demander pourquoi tu as arrêté Kérosène ? Est-ce que c'est parce que tu es parti de Montaigu ou...
Bah, c'était difficile de s'en occuper à plein temps. Et puis, j'avais pas de vrai travail. Et puis, à un moment, il fallait quand même devenir un peu sérieux. Donc, voilà, j'ai arrêté. Les conneries.
Mais ouais, ce que je trouve assez, enfin ça c'est plus des discussions avec Stéphane, enfin avec Steph, des discussions de fond, mais sur est-ce que vous ressentez quand on vous dit punk, est-ce que vous ressentez plusieurs générations dans le punk comme Solveig et Lug, on en a un petit peu parlé dans l'intro. Est-ce que vous entre les gens qui ont vécu le punk fin des années 70, début des années 80 et des gens d'après, vous ressentez plusieurs manières d'envisager le punk ?
Il y a ceux qui sont punk, il y a ceux qui l'étaient, quoi. Ceux qui le sont encore aujourd'hui et ceux qui ne le sont plus. Moi, je ressens comme ça.
Toi, tu l'es encore, c'est ça ?
Hein ?
Toi, tu l'es encore.
Bah non, je vais le devenir, je pense.
Hein ?
Ouais, je me considère pas du tout punk. Mais de plus en plus, oui, ça se précise, on va dire. Non, ce que je veux dire, c'est que les anciennes générations, souvent, on les retrouve disquaires ou travailleurs sociaux. Enfin, voilà, quoi, souvent. Je dis pas que c'est une généralité, mais c'est souvent ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, quoi.
Bon, à moins que c'est. Enfin, sinon, on va arrêter pour le matin. Ce que je propose, c'est peut-être là, sur 5 minutes, juste avant qu'on arrête, c'est est-ce qu'on peut avoir, du coup, est-ce que vous avez des questions sur les interventions précédentes ? Si jamais vous avez soit une question à poser, par exemple, sur le projet PIND, ou alors sur l'approche d'Emmanuel plus Anthropo, ou de Sandrine. Si vous avez une question ou une chose à dire ou à préciser ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et tout ça, est-ce que vous avez un truc à dire sur la matinée ? Ok, bon, je propose que... Après, voilà, on peut discuter en off, tout ça, il y a ça aussi. Et puis, donc on va peut-être prendre l'apéro. C'est le moment. Je ne sais plus si on...